RTL Soir, Vincent Parisot.
Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver. C'est parti pour deux heures d'infos avec à la une l'attaque terroriste de la prison de Condé-sur-Sarthe. Un détenu radicalisé a poignardé, grièvement blessé ce matin, deux surveillants avant de se retrancher avec sa compagne au sein de l'unité familiale de cette prison ultra sécurisée. Le couple s'y trouve toujours. Ce détenu libérable en 2038 s'était radicalisé en 2010, mais il n'était pourtant pas détenu dans le quartier pour les radicalisés qui a été ouvert en septembre. Drame qui relance le débat sur la surveillance des islamistes en prison et sur l'accueil des djihadistes. On sera sur place à la prison de Condé-sur-Sarthe dans un instant. Vous entendrez le père de ce détenu qui lui demande de se rendre. RTL Soir, première édition, c'est avec vous Céline Landreau, bonsoir.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Et les autres titres?
Les malades du Levothyrox déboutés par la justice. Plus de 4000 patients attaquaient le laboratoire Merck pour défaut d'information sur la nouvelle formule du médicament. Près de 2000 emplois menacés chez Conforama, l'enseigne d'ameublement est en vente. But est sur les rangs. Carlos Ghosn tout près de la sortie. La justice japonaise confirme une possible libération sous caution de l'ancien patron de Renault. En Algérie, l'armée prend la parole et avertit les manifestants. Elle garantira la sécurité et la stabilité du pays. Et puis, l'ultime hommage de Chanel à Karl Lagerfeld. Le défilé avait lieu aujourd'hui au Grand Palais à Paris. La Bourse de Paris termine ce soir en légère hausse, plus 0,21%. Le CAC 40 s'établit à 5297 points. Enfin, les courses à Chantilly, il fallait jouer le 8, le 6, l'As, le 12 et le 16.
À la fin de votre journal, Céline, la question qui nous permet de comprendre l'actualité. Nous verrons à quel âge on prend réellement notre retraite en France. À 18h20, le premier invité d'RTL Soir, Bruno Retailleau, le soutien de Jean-Pierre Raffarin à Emmanuel Macron pour les européennes, la lettre du président aux Européens. Eh bien, le président du groupe Les Républicains au Sénat réagit ce soir sur RTL. Puis direction les coulisses de l'actualité au Mondial de l'Auto de Genève, mais en mode tout électrique ce soir. À 18h30, ce sera Alain Duhamel qui reviendra sur la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens. Et puis à 18h35, une vraie leçon de vie, de courage et d'abnégation. Jonathan Dutrel, un garçon né avec la mucoviscidose, il a subi une première greffe des poumons avant une deuxième greffe, cœur-poumon cette fois. Et malgré cela, eh bien, l'été dernier, il a participé à l'Ironman, une épreuve de fou où l'on enchaîne 4 km de natation, 180 km en vélo et un marathon. Et figurez-vous qu'il a fini dans les temps. Il sera avec nous tout à l'heure. À 19h15, on refera le monde. Alors la météo, Louis Baudin, bonsoir tout d'abord Louis.
Bonsoir Vincent, bonsoir à tous.
Plus de pluie demain.
Oui exactement, la pluie qui va revenir par le nord-ouest, des pluies qui vont gagner toutes ces régions allant de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais le matin, puis l'après-midi de l'Atlantique au nord-est en passant par l'Île-de-France, la région centre ou encore le Val-de-Loire, la Normandie. De la pluie, un peu de vent également sur le littoral de la Manche. Pendant ce temps-là, dans les autres régions, on aura un ciel de plus en plus voilé et menaçant, notamment dans le sud-est où la pluie reviendra par la Méditerranée avec un vent d'autant assez fort. D'ailleurs dans la région toulousaine. Tout cela avec des températures en revanche très douces. Hein. Pas de gelée demain matin en plaine et l'après-midi, 12 à 14 degrés près de la Manche, mais 14 à 20 degrés dans toutes les autres régions.
Merci, oui, à tout à l'heure.
RTL Soir.
Les autorités parlent clairement d'une attaque terroriste. Un détenu radicalisé est toujours retranché ce soir à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne.
Il a attaqué ce matin deux surveillants avec un couteau en prononçant Allah Akbar lors de l'agression. Les deux surveillants ont été gravement blessés mais leurs jours ne sont pas en danger. L'homme de 27 ans qui s'est radicalisé en 2010 purge une peine de 30 ans de prison après une condamnation pour meurtre. Frédéric Veil, vous êtes devant la prison de Condé-sur-Sarthe pour RTL. D'importants moyens sont déplacés mais la situation semble pour l'instant figée.
Eh bien, depuis 9h30 ce matin, le détenu et sa compagne sont retranchés dans l'unité de vie familiale du centre pénitentiaire où, selon nos informations, ils s'y trouvent toujours malgré un important déploiement des forces de l'ordre ici où une vingtaine de policiers du RAID sont encore entrés à l'intérieur de l'établissement il y a moins d'une demi-heure. Il y a également deux hélicoptères de l'armée de l'air plus un du SAMU qui sont posés ici sur la pelouse juste devant l'entrée. Une unité de démineurs a elle aussi été appelée car, comme me le confiait un surveillant, si une visite peut faire entrer un couteau, elle pourrait tout aussi bien faire entrer des explosifs.
Le seul moyen pour contrôler une personne, c'est qu'elle va passer sous un portique qui va détecter les masses métalliques. Donc un couteau en céramique ne sonne pas. Mais il faut savoir que ça peut être un explosif. En l'occurrence, on pense qu'il était caché en dessous de sa djellaba là-bas. Et elle est passée sous le portique comme si de rien n'était.
Et si les démineurs sont là et que les forces de l'ordre ne sont toujours pas intervenues, c'est que le détenu retranché aurait affirmé être en possession d'une ceinture d'explosifs. Lui et sa compagne qui auraient simulé un malaise pour attirer les surveillants et les agresser sont donc à cette heure toujours retranchés et auraient même, selon nos dernières informations, annoncé leur volonté de mourir en martyr.
Frédéric Veil devant la prison d'Alençon, Condé-sur-Sarthe pour RTL.
Le détenu souhaiterait mourir en martyr, nous disait à l'instant Frédéric Veil. RTL a pu joindre son père, Charlie, qui lui demande au contraire de se rendre.
Je veux dire qu'il se rende et puis qu'il arrête ses conneries. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa tête parce que depuis 9h30, il est retranché avec sa femme. Il a fait des conneries d'arriver où il en est aujourd'hui. Donc tout s'accumule. Il sait qu'il est condamné. Donc il sait qu'il doit sortir de prison d'ici une trentaine d'années. Donc là, il est arrivé à bout. Et il veut se faire un nom parce qu'il sait qu'il est condamné. Voilà. Pour moi, Michael, il s'est radicalisé. C'est uniquement dans sa tête, mais pas dans son cœur. Moi, mon fils, il a été baptisé. Il est catholique. C'est un garçon. Il est très malin. Il est très, très malin. Déjà tout petit. Mais il était extrêmement gentil. J'ai demandé au chef du raid d'essayer de me mettre en communication avec mon fils pour pouvoir parler avec lui, trouver les mots. Si ça reste comme ça, je pense qu'il va y avoir un massacre.
Voilà, le père du détenu, donc joint pour RTL par Nicolas Burnand.
Après cette agression, des syndicats de surveillants de prison appellent au blocage demain des établissements pénitentiaires en soutien aux deux agents poignardés. Ils réclament davantage de sécurité pour les personnels. Et puis on l'a appris aujourd'hui, le djihadiste français Jean-Michel Klein aurait été tué lui aussi en Syrie, 2 jours après son frère Fabien dans une frappe de la coalition. C'est en tout cas ce qu'affirme l'épouse du terroriste à nos confrères de l'agence France Presse, Dorothée Macaire, qui vient de quitter Baghouz, dernier réduit du groupe État islamique en Syrie. Elle laisse également entendre que Hayat Boumediene, la compagne d'Amélie Coulibaly, l'auteur de l'attentat de l'Hypercacher en janvier 2015, a été tuée, elle aussi.
Les malades du Lévothyrox ont donc été déboutés. La justice estime que le laboratoire Merck n'a commis aucun défaut d'information.
Ils étaient plus de 4000 patients à se porter à partie civile dans ce dossier, reprochant au laboratoire de ne pas avoir suffisamment informé sur le changement de formule du médicament contre l'hypothyroïdie. Des malades forcément déçus par la décision du tribunal de Lyon. Arnaud Grange, ils ont le sentiment de ne pas avoir été entendus.
Devant le palais de justice, la dizaine de malades qui a fait le déplacement accuse le coup.
Non, je comprends pas. Hein.
Odette est abattue, elle pensait obtenir gain de cause. Cette décision est incompréhensible.
Quand on sait quand même qu'il y a des morts, hein, en fait, c'est nous qui servons de cobayes, tout ça pour lobbying. Hein.
Pour la justice, il n'y a pas eu de défaut d'information car la notice contenait des informations suffisamment précises et pertinentes, ce que conteste cette patiente.
Même pas, ils ont mis sur la boîte nouvelle formule. Regardez, mon pharmacien n'était pas au courant.
De son côté, le laboratoire Merck parle d'une décision fondée et équilibrée, mais pas d'un soulagement. Le directeur juridique Florent Bensadoun.
C'est un dossier dans lequel il y a beaucoup d'émotions. Cette émotion-là, nous l'entendons et nous la respectons. Simplement, c'est une réponse qui, pour nous, est tout à fait fondée, qui a été apportée et qui est venue simplement reconnaître ce que nous répétons depuis le début dans cette affaire, qui est que nous respectons la réglementation en vigueur.
Les parties civiles ont désormais 15 jours pour décider d'un éventuel appel.
Arnaud Grange à Lyon pour RTL. Et puis on vous le disait dans les titres, réunion de crise et grosse inquiétude pour les salariés de Conforama.
Près de 2000 postes sont menacés. L'enseigne a été mise en vente par son actionnaire sud-africain. Un autre groupe de l'ameublement bute serait sur les rangs et les syndicats craignent un plan social de grande ampleur, Martial Youf.
Oui, Conforama pensait d'ailleurs avoir trouvé le bon actionnaire en quittant la famille Pinault en 2011 pour être reprise par Steinhoff, surnommé le IKEA sud-africain. Mais le problème, c'est que depuis 2017, le groupe Steinhoff est en grave difficulté financière. Il ne publie plus ses comptes à cause d'irrégularités et il est contraint de vendre ses marques. Conforama en fait partie, surtout que le secteur de l'ameublement en France a été fortement impacté à la fin de l'année dernière par les grèves des Gilets jaunes, ce qui a accentué les difficultés de l'enseigne. C'est donc son plus gros concurrent, But, qui s'est mis sur les rangs pour racheter Confo et ses 235 magasins. But était déjà candidat en 2011, ce n'est donc pas une surprise de le retrouver à nouveau sur le dossier. Le problème, c'est que si But et Conforama fusionne, eh ben il va y avoir une situation de monopole et les deux marques vont devoir céder des magasins. Malheureusement pour les 9286 employés de Conforama, cela veut dire la suppression d'environ 1500 à 2000 postes, soit à cause des règles de concurrence avec But, soit à cause de la cure d'amaigrissement que l'enseigne va faire pour séduire un autre repreneur.
Martial Youf, le chef du service économie d'RTL.
Et puis RTL, vous le révélez à la mi-journée, les syndicats boycottent les discussions sur la réforme de la fonction publique. Seule la CFDT se rendra à Bercy demain, mais pour signifier son désaccord avec la méthode du gouvernement.
Allez, une courte pause et dans un instant, Carlos Ghosn, sans doute une dernière nuit avant la sortie. On sera au Japon dans un instant.
RTL.
Carlos Ghosn vit peut-être les dernières heures de son calvaire puisque l'ancien patron de Renault pourrait être libéré demain.
Emprisonné au Japon depuis la mi-novembre pour des soupçons de malversation, Carlos Ghosn continue de clamer son innocence. Et aujourd'hui, Philippe Dovat, la justice japonaise, a confirmé, malgré l'opposition du parquet, qu'il pouvait bénéficier d'une libération sous caution.
Oui Céline, le juge de la cour d'appel de Tokyo a en effet rejeté tard dans la soirée l'appel des procureurs. Moyennant le paiement de 8 millions d'euros, la remise en liberté de Carlos Ghosn pourrait être effective dès ce mercredi avec des conditions de contrôle draconiennes. Au Japon, le bracelet électronique n'existe pas, mais l'ex-patron de l'Alliance ne pourra pas quitter le territoire japonais. L'usage de ses téléphones portables sera limité, des caméras surveilleront 24 heures sur 24 son domicile, tout contact avec des dirigeants de Nissan lui seront interdits et il ne pourra utiliser un ordinateur qu'uniquement dans le bureau de son avocat, Junichiro Hironaka. Cette décision du tribunal constitue une première victoire pour cet avocat, surnommé l'acquitteur au Japon. Sûr de lui, il s'était engagé dès hier à obtenir la libération de son client sous caution. D'ici à demain, Carlos Ghosn doit encore passer quelques longues heures dans sa cellule de la prison de Kosuge avant de savoir si les procureurs trouveront un nouveau chef d'inculpation pour l'arrêter ou s'il pourra fêter librement son 65e anniversaire le 9 mars prochain.
Philippe Dovat, le correspondant d'RTL en Asie. Et puis en Algérie, alors que là, évidemment, les manifestations se poursuivent, l'armée se fait entendre et se pose en garante de la stabilité du pays.
Les militaires promettent la sécurité face à ceux qui veulent ramener l'Algérie aux années de guerre civile. Face à la contestation contre un possible cinquième mandat d'Abdelaziz Bouteflika, le camp présidentiel agite le spectre d'un retour aux années noires qui ont fait officiellement 200 000 morts. La prise de position de l'armée aujourd'hui sonne donc comme un avertissement à peine voilé envers les manifestants, mais cela n'a pas suffi à enrayer la mobilisation. Plusieurs milliers d'étudiants sont encore descendus dans les rues, et notamment à Alger et d'Amenassel.
La place Odin, le cœur de la capitale, est noire de monde. Ce sont essentiellement des étudiants venus crier leur rejet d'un cinquième mandat pour le président Bouteflika. L'annonce de sa candidature, accompagnée d'une longue liste d'engagements, n'a pas suffi à calmer la rue.
Aujourd'hui, on est sortis. Au fait, on veut un changement. Un changement de système, tout simplement. On est contre le cinquième mandat. On est contre un président qui n'adresse même pas un seul mot à son peuple.
On veut être comme tout le monde, comme l'Europe. Pourquoi on n'est pas comme l'Europe? Pourquoi pas?
Sur l'avenue d'Idouche Mourad, la police fait usage de canons à eau pour disperser les jeunes manifestants. Ils répondent avec humour, merci pour l'eau. Rajoutez-nous du shampoing et on sera content. De son côté, le vice-ministre de la Défense algérienne, le général Gaid Salah, a réagi à ces manifestations, appelant le peuple à s'ériger, je cite, en rempart contre tout ce qui pourrait exposer l'Algérie à des menaces aux retombées imprévisibles.
L'arrêt d'Amenassel, le correspondant d'RTN en Algérie. Et puis, aujourd'hui à Paris, l'ultime hommage au Kaiser de la mode. Chanel a dévoilé aujourd'hui la dernière collection signée Karl Lagerfeld.
C'était certainement le défilé le plus attendu de la Fashion Week parisienne. Deux semaines après la mort du célèbre directeur artistique de la marque, un défilé au Grand Palais, Monique Younes, qui a permis de saluer le génie de la couture.
Karl Lagerfeld avait prévu de nous emmener à Courchevel, sous la neige. Tout était donc blanc sous la nef du Grand Palais, comme les cheveux de Karl, et comme le froid qu'il laisse dans le cœur de ses fans, assis devant des chalets aux cheminées fumantes. Il y avait Anna Wintour, la rédactrice de mode, Claudia Schiffer, la top des tops, Monica Bellucci et Kristen Stewart, stars comme les autres, comme toutes celles et ceux qui n'ont pas eu le cœur de venir, pas même Inès de la Fressange. L'un des chalets a pour nom Gardenia. Et c'est sur son seuil qu'apparaissent les premiers mannequins. Après une minute de silence, la voix de Karl Lagerfeld évoque ses débuts chez Chanel et les compliments de la reine d'Angleterre. Première larme chez les 2000 invités. Le défilé commence. Cara Delevingne l'ouvre. Elle porte un grand manteau, motif pied de coq, qui s'ouvre sur une cascade de colliers et un pantalon large et haut sur la taille. 70 mannequins la suivent. Puis Penélope Cruz apparaît en jupe boule de neige, en mousseline et plumes, une fleur de camélia à la main. David Bowie revient parmi nous pour chanter. Nous sommes des héros, le public est debout, les présents, les absents, il y a de la place pour tout le monde, pour toutes les larmes, même celles des crocodiles.
Monique Younes avec la musique de Bowie, hein, donc pour ce dernier hommage à Karl Lagerfeld à l'occasion de la présentation de sa dernière collection. Merci Monique. Et puis évidemment, merci. Vous revenez tout à l'heure à 18h30, Céline.
Oui, sans faute.
Bon, on vous attend. Et maintenant, les clés pour bien comprendre l'actualité. La CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, publie cette semaine ses chiffres de 2018 et on y apprend notamment à quel âge les Français prennent réellement leur retraite.
Oui, sachez que les hommes partent à la retraite à 62 ans, 8 mois et 2 semaines en moyenne. C'est légèrement plus tôt que pour les femmes, car les femmes partent à la retraite 4 mois plus tard, à 63 ans tout pile. Cette différence peut être due au type de carrière, souvent entrecoupée d'arrêts plus fréquents que chez les hommes. Qui dit arrêt pendant la vie active, dit aussi obligation de travail plus tard. Au-delà de cet âge de départ moyen, un certain nombre de salariés peuvent partir plus tôt que les autres à la retraite, parce qu'ils ont commencé plus jeunes ou parce que leurs conditions de travail étaient difficiles. Les départs anticipés ont concerné une personne sur quatre en 2018.
Mais alors, Anaïs Bouissou, le but des récentes réformes, c'était d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Ça veut dire mission accomplie, ça a fonctionné?
Oui, c'est vrai que l'âge légal de départ à la retraite est passé à taux plein de 60 à 62 ans. Résultat, en 2006, on partait à la retraite à 61 ans. En 2011, à 62 ans. Vous voyez, ça augmente progressivement. 2015, 62,4 ans. Et la tendance à la hausse se poursuit en 2018, avec donc un âge moyen de départ à la retraite de 62,7 ans.
Les clés de l'actualité étaient signées Anaïs Bouissou. Une courte pause et dans un instant, le premier invité d'RTL Soir, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat.
RTL Soir, 18h17.